Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui, je suis avec une invitée, Alice Van Helden. Salut.
Salut.
Alors, donc le sujet de conversation, c'est qu'on a, elle est membre du comité PARA. Et c'est une scientifique, c'est une physicienne. Alors, je lui demanderai de se présenter après, mais donc on a fait une traduction d'un article qui s'appelle « Pourquoi les affirmations parapsychologiques ne peuvent pas être vraies » de Arthur S. Rubber et James Alcock. Et c'était un travail collectif du comité PARA. On y a tous mis un peu notre grain de sel. Enfin, moi, j'ai particulièrement contribué sur la partie discussion de la parapsychologie. Et Alice a principalement contribué sur la discussion de la physique qu'il y avait dedans. Et donc, voilà, on va en discuter. Mais raconte-nous un peu qui tu es d'abord.
Oui, bon, en fait, je ne suis pas exactement une physicienne. C'est-à-dire que je suis doctorante seulement et en philosophie des sciences plutôt. Donc,
c'est vrai.
Je travaille vraiment sur la mécanique quantique. Pour moi, ce que je fais, c'est de la physique, mais les physiciens n'appellent pas ça de la physique. Donc, je travaille sur l'interprétation. Donc, c'est l'étude de la nature des objets quantiques, en fait. Donc, je ne fais pas d'équation. Mais par contre, j'ai une formation à moitié physique, à moitié philo. Donc, voilà, j'ai un bachelier de physique et un master de philo de la physique et des maths.
C'est simple. Ouais, je m'étais posé la question parce qu'évidemment Alice travaille sur une conférence qu'elle va faire bientôt sur le serveur Discord du comité PARA. Je ne sais pas si l'épisode sera sorti d'ici là, mais bon, si ça peut être dans le passé ou dans le futur au moment où vous écoutez cette conversation. Mais mais c'est vrai que j'avais lu que t'étais
temporel.
Parce qu'on a beaucoup d'interviews dans le pipeline pour le moment. Oui, c'est vrai que j'avais vu que tu étais philosophe des sciences et effectivement, moi j'ai fait de la philo et donc c'est vrai que j'ai, les gens qui faisaient de la philosophie de la physique particulièrement, généralement on leur demande d'avoir un background quand même en physique. Gens qui font de la philosophie de la physique, ils peuvent pas ne pas avoir fait de physique avant. Donc c'est vrai que donc, toi tu as fait un bachelier.
Ils peuvent, mais alors c'est plus axé à leur histoire de la physique. Il y a des historiens, enfin philosophes, historiens de la physique qui n'ont pas fait de physique avant, j'en connais. C'est jamais le cas pour les gens qui parlent de la physique contemporaine. Ils parlent toujours de l'époque newtonienne et tout ça, quoi. Leibniz, y a beaucoup à dire, hein. c'est très intéressant, mais c'est vrai que pour la physique de la mécanique, la philo de la mécanique quantique, ça, je crois pas qu'il y ait moyen, à moins de prendre le risque de raconter des énormes conneries, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de se renseigner dans son coin sur la mécanique quantique. Justement, c'est un gros problème, c'est que il n'y a pas de niveau intermédiaire adapté entre la grosse vulgarisation où on ne comprend rien et vraiment les maths dures, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, de toute façon, c'est une remarque un peu générale pour toute la philo. Hein. C'est vrai que, je veux dire, si tu veux faire de la philo de la psychologie, il vaut mieux avoir quand même un peu fait de la psycho quand même à côté.
Oui, clairement. Ouais.
Sinon, tu risques fort de dire des bêtises. Très bien. Sinon j'allais faire une remarque sur le podcast. On a fait il y a très longtemps, il y avait des conférences de Jean Bricmont en philosophie de la physique quantique.
Il a contribué. Oui. Évidemment, ils n'allaient pas s'en priver.
Ouais. Ouais, enfin bon, bref, il y a toujours les conversations assez pénibles sur les positions politiques de Jean Bricmont, mais je dirais, je sais pas si tu as déjà un peu lu ce qu'il produisait en termes de philosophie des sciences, la physique.
J'ai discuté avec lui. Je vois très bien. Donc lui, il est de l'interprétation de De Broglie-Bohm, et on a beaucoup discuté de ça parce que, on a débattu là-dessus un peu, et parce que moi, je pense pas que ce soit une interprétation compatible avec le réalisme, donc avec la conviction qu'il existe un monde extérieur indépendant de la pensée humaine, parce que je pense que c'est une conception platonicienne. Mais bon, lui, il ne se définit pas comme ça, et donc, je vois très bien ce qu'il pense, et c'est, pour moi, c'est pas quelque chose que je soutiendrais, parce que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus que ça, mais je pense que c'est une opinion cohérente, avec certains présupposés philosophiques, quoi.
Oui, assez. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais l'impression que j'avais eue en l'écoutant, c'est que c'est une position relativement compatible avec du scepticisme sur la physique quantique. Enfin, il est quand même. Il adhère justement à du réalisme quand même, ouais, etc.
Ouais. Bah, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Mais en fait... justement, enfin, moi, je pense pas que... En fait, c'est sur la question de la fonction d'onde. Donc, la fonction d'onde, c'est l'objet principal en mécanique quantique. Ouais, bon, y a d'autres objets importants, mais c'est, disons, l'objet central de la théorie. Et son statut est un des principaux débats dans la communauté de la philosophie de la mécanique quantique. Et donc... en fait, la façon dont les bohmiens le traitent, donc les bohmiens, c'est ceux de l'interprétation de De Broglie-Bohm, la façon dont ils traitent la fonction d'onde, c'est en la hypostasiant, donc ça veut dire en interprétant au pied de la lettre l'objet mathématique qui est la fonction d'onde, en disant la fonction d'onde existe telle qu'elle dans le monde. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas exister parce qu'elle n'a pas trois dimensions, la fonction d'onde. Enfin, elle a trois dimensions pour une particule, mais ce n'est pas d'une particule qu'on parle, quoi. Et donc, elle ne peut pas exister dans l'espace ordinaire. Et donc, il n'y a pas vraiment de résolution de ça, quoi. Mmh. Et donc, je pense que ce que Brickmans dit, c'est que ce n'est pas spécialement grave parce qu'il n'attend pas d'avoir une description plus précise de ce champ que serait la fonction d'onde. Mais pour moi, c'est le problème principal qui fait qu'il n'y a pas moyen que ce soit réaliste. Ça doit être platonicien parce qu'il y a un objet mathématique qui est la fonction d'onde qui existe.
Ok. Ah, c'est super intéressant d'avoir une opinion critique. Oui, parce que moi, forcément, j'ai pas l'expertise pour me faire vraiment une opinion sur ce qu'il dit. C'est cool. Voilà. Ouais. Très bien. De toute façon, ce n'était pas du tout notre sujet de conversation. Je l'ai pris à chaud, là, la pauvre.
Pas plutôt à froid. Ça me passionne, donc.
Mais donc, l'article que dont on a parlé, donc c'était pourquoi les affirmations parapsychologiques ne peuvent pas être vraies. Voilà, pour situer la situation, Arthur S. Rebert et James Alcock. Donc James Alcock, ça c'est une grande figure des sceptiques de la parapsychologie, avec les cinq grands noms actuels, donc Riemann qui doit avoir dans les 90 ans, Susan Blackmore, Richard Wiseman, Chris French et James Alcock, évidemment, Wiseman étant le plus jeune à 51 ans, je pense. Et James Alcock doit avoir plus de 60, j'ai pas été vérifier son âge. Je l'ai rencontré d'ailleurs à une convention à sceptique qui s'est tenue à Bruxelles en 2005, je pense. Il y a eu un repas sceptique à ce moment-là et j'étais assis à côté de lui, j'étais complètement en mode fangirl. parce qu'il a écrit dans les années, je sais plus c'était, oh là, les dates, j'ai pas été vérifié, mais fin des années 90, je pense à un livre sur la parapsychologie, qui était pour moi évidemment un livre de référence sur le sujet, une critique de la parapsychologie. Très bien. Ça, c'est pour le contexte. Alors, le contexte plus général, c'est que Herzl Cardena, qui est un parapsychologue de la Parapsychological Association, a publié un article dans la revue... American Psychologist, donc qui n'est pas une revue de parapsychologie, qui est une revue de psychologie assez réputée, qui est bien cotée dans les scores d'indices, qui s'appelle The Experimental Evidence for Parapsychological Phenomena Review, donc les preuves expérimentales des phénomènes parapsychologiques, une revue de la littérature où il faisait un balayage des revues, des articles de parapsychologie qui semblent indiquer l'existence du psy, et donc... Alcock et Rebert ont écrit dans la même revue un article de réponse, et puis ils ont fait dans Skeptical Inquirer, qui est une des plus grandes revues sceptiques, hein, donc c'est la plus grande avec Skeptic Magazine. Donc Skeptical Inquirer, c'est la revue du PSYCOP, Comité pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, et puis Skeptical Magazine, c'est la revue de la Skeptic Society. Donc dans une des plus grandes revues sceptiques, il a publié un article qui est une sorte de vulgarisation de leur article de réponse. Et donc nous, au Comité Para, on a traduit cet article qui était dans Skeptical Inquirer. Qu'est-ce que tu as pensé de l'article de manière générale?
J'étais assez énervée en lisant. De manière générale, ça me dérange vraiment l'utilisation de la physique dans cet article. Parce que justement, c'est quelque chose que je reproche aux rares articles de psychologie que j'ai vraiment lus en entier. J'ai dit parapsychologie.
Oui, tu as dit psychologie, mais c'est de parapsychologie que tu veux dire.
Pardon. c'est ça que je voulais dire. C'est que en fait, ils instrumentalisent la physique, quoi. Ils voient vraiment ce qu'ils ont envie de voir dans la physique. Ils vont récupérer des trucs de manière pas tout à fait correcte et pas exhaustive en tout cas. Et donc, ça, c'est un problème dans ces journaux-là. Et le problème, c'est que si on commence à critiquer en utilisant les mêmes méthodes, où est-ce qu'on va, quoi? Et là, c'est vraiment instrumentalisé tout pareil.
Ouais, c'est vraiment le même truc. Donc, pour expliquer un peu aux auditeurs, l'aspect, moi, puisque évidemment, je suis pas du tout un spécialiste de physique, donc j'avais pas vraiment d'avis sur les arguments physiques posés, mais l'aspect, je veux dire, l'argument général de Robert et Alcock, c'est que ça vaut pas là. Donc encore une fois, Cardena avait une revue de la littérature, hein, et eux ils disent finalement ça sert à rien d'aller dans le détail de la revue de la littérature, puisqu'en fait on sait que le paranormal n'est pas possible. Et donc ils posent un peu a priori que le paranormal n'est pas possible, et l'astuce c'est que je veux dire, comment est-ce qu'on peut poser que le paranormal n'est pas possible a priori? En disant que c'est pas compatible avec la science, ce qu'on sait dans le reste de la science. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont invoquer les éléments de physique dont tu parles. Bon, moi-même en étant pas familiarisé, enfin, j'ai pas d'avis critique sur les éléments de physique, l'argument, on ne doit pas engager le débat avec les expériences elles-mêmes, poser problème, parce que je pense qu'il faut... Enfin, c'est un peu bizarre de dire... on va plus pas... engagé. Alors évidemment, le problème, la pression que ça donne, c'est qu'ils ne le font pas, parce qu'évidemment, à ce stade-ci, les sceptiques, ils n'ont plus tellement d'éléments. Quand on va dans le détail, ça devient très très dur de critiquer. Les expériences de parapsychologie sont en général ont des méthodologies assez solides, etc. Donc, alors évidemment, ils disent on va juste pas le faire, on va juste dire c'est pas possible a priori. Mais donc sur le principe de base, moi ça me posait problème évidemment. Et évidemment les parapsychologues, quand ils ont lu ça, ils se sont dit mais c'est quoi cette histoire, quoi? Je veux dire, nous on produit toute une littérature et on nous répond non, on va juste pas en tenir compte parce que c'est pas possible que ce soit vrai.
Ouais, c'est plutôt ça le problème, parce que le fait de dire tout ce qu'on veut peuvent pas être scientifiques, c'est un peu par définition vrai, puisque dès que ça devient reconnu, c'est scientifique. Donc bon, techniquement, le terme est plus adéquat à ce moment-là, quoi. Donc la question, c'est plutôt est-ce que la parapsychologie peut devenir de la psychologie ou pas, et répondre juste, ce n'est pas parce que c'est de la parapsychologie, c'est juste ascientifique en fait. C'est une mauvaise compréhension de la façon dont la science fonctionne, en agrégeant petit à petit des nouvelles choses, quoi.
Ouais. Je pense que c'est l'héritière de l'idée qui était de toute façon la parapsychologie c'est de la pseudo-science, donc on ne doit pas s'en préoccuper, mais je veux dire, c'est juste l'adaptation maintenant de cet argument qui remonte à assez loin, mais je pense que ça ne tient plus fort la route non plus. Est-ce que tu peux évoquer un peu les différents arguments physiques qui étaient abordés dans l'article, justement pour rejeter la possibilité même donc, de l'existence du psy, hein? Donc le psy, c'est un terme utilisé en parapsychologie, c'est psy avec un i et pas psy avec un y comme dans psychologie, et ça regroupe les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse, donc tout ce qui est télépathie, etc. Je regarde les arguments. Le premier argument, c'était à propos de la causalité. Est-ce qu'on peut en discuter dans ce temps-là?
Oui, je suis en train de les relire aussi. Il y avait quelque chose par rapport au rationalisme, ça c'est pas purement de la physique, mais purement physique. Ah oui, ah, c'était marrant. Ça c'est intéressant d'en parler en fait, c'est que... Donc, il y a une mauvaise compréhension de la relativité einsteinienne dans cet article qui dit qu'elle confirme l'existence des forces newtoniennes, donc qu'elle renforce son concept ou quelque chose comme ça. Et en fait, justement, c'est pas du tout vrai, et ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment passé dans la culture scientifique générale, parce qu'à l'école, on continue à avoir les forces newtoniennes, et ça, je pense que c'est vraiment mauvais de continuer avec ça. C'est qu'en fait, il y a un énorme shift ontologique qui vient avec la relativité einsteinienne, c'est qu'il n'y a plus du tout de force. La notion de force, déjà, elle était problématique à la base. Au moment où Newton a proposé ça, il se rendait bien compte lui-même qu'il y avait des problèmes avec cette notion, parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment ça fonctionnait. C'était juste de dire il y a une action qui se fait sans aucun intermédiaire, sans contact, sans, sans rien de mécanique, en fait. Donc, c'est une action non physique, si on pense que la physique, c'est censé être les phénomènes qui sont dans l'espace-temps. Un phénomène qui agit instantanément à distance, ce n'est pas un phénomène qui est dans l'espace-temps. Ce n'est pas une causalité du même type que tous les autres phénomènes de physique, quoi. Et donc, quand il a posé ça, il se rendait bien compte qu'il y avait un problème, et il était un peu dérangé par ça et tout ça, mais bon... Au final, comme la théorie marchait super bien, et puis après, elle a été plus répandue par d'autres gens, etc. Et donc, c'est vraiment rentré dans l'imaginaire collectif, le fait qu'il y a moyen d'y avoir des actions à distance. Et donc, nous, on a appris ça en secondaire. Mais en fait, depuis la relativité générale, en fait, il n'y a plus du tout d'actions à distance en physique, dans toute la physique. Tout ça, c'est remplacé par des champs. C'est des champs qui sont des objets qui existent en tant que tels, ils existent par eux-mêmes. Ils sont là, ils sont partout. Ce n'est pas de la matière, c'est un autre type de substance que la matière. Et ils agissent directement par contact sur les objets, quoi. Et donc, la relativité einsteinienne a complètement changé le principe de fonctionnement des forces gravitationnelles en disant des forces qui poussent les objets à distance, c'est le champ qui pousse les objets et qui les tire et qui les change de trajectoire et tout ça, quoi. Et donc, ouais, ça c'est... Bon. C'est quand même un peu dommage, surtout si ça a été lu par des physiciens, de laisser passer quelque chose comme ça, justement, qui est aussi intéressant. Le truc auquel je pensais en particulier qui m'avait beaucoup dérangé et où on voit vraiment que c'est une question... où ils ont vu ce qu'ils avaient envie de voir et ils ont utilisé la physique de la manière qui leur plaisait, c'est le truc de la loi en carré inverse, là. Donc ils disent, c'est pas possible d'avoir une action parapsy, que ce soit, je sais pas moi, télépathie ou quoi que ce soit, à distance, parce que on voit bien que ça diminue pas avec la distance entre les gens, ça devrait diminuer en carré inverse. Donc ça veut dire que ça devrait être de moins en moins fort en suivant une courbe qui est... je ne sais plus exactement à quoi ça ressemble, mais bon, bref. Et donc en suivant une courbe précise, quoi. Et en fait, ça, cette loi-là, elle est valable que pour certains types d'actions physiques. Et c'est toutes les actions qui résultent de une source qui est un point matériel et qui fait une action radiale. Donc, par exemple, si on a un aimant, le champ électromagnétique qui est dégagé par cet aimant, il a une action radiale. Donc, si on met des machins en métal autour de l'aimant, ils vont subir une force qui est la même, qui est une symétrie radiale, donc une symétrie circulaire, si on veut, et qui est beaucoup plus forte près de la source et de moins en moins forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne et avec cette loi en carré inverse. Et ça marche pour plein de trucs, mais ça marche pas du tout pour tout, quoi. Et donc le fait de dire c'est impossible qu'il y ait cette force parce qu'elle est pas en carré inverse, ben c'est juste pas du tout physique. Il y a plein de forces physiques qui sont pas en carré inverse. Et en plus, ils ont même pas essayé de préciser quel type de force c'était. Ils n'ont jamais dit que c'était censé être une loi radiale, quoi. Enfin, une action radiale. Donc, ouais, si ça se trouve, c'est, je sais pas moi, c'est un machin qui est envoyé, je sais pas, et si mettons le mécanisme de fonctionnement qui suppose, c'est un vecteur de l'information qui part du cerveau de quelqu'un et qui fait un long trajet et qui arrive au cerveau de quelqu'un d'autre, tant que ce vecteur d'information est en vie, enfin tant qu'il est en vie, disons pour un truc physique, ça veut dire tant qu'il n'est pas désintégré, ben, il peut transmettre le machin, quoi. Donc ouais, ben là je spécule, je dis n'importe quoi, moi je ne suis pas du tout convaincue qu'il y ait de la télépathie ou des trucs psy, au contraire, tant que je n'ai pas de preuves très très solides, ça me semble pas du tout recevable, mais le problème c'est... on ne peut pas critiquer ça. Ouais, ça, quand on critique ça, il faut être nous-mêmes scientifiques, quoi. Sinon, on passe pour des clowns aussi.
Ouais, enfin, je veux dire, c'est des scientifiques, mais juste des psychologues, donc forcément... ouais, en fait, je vois, je ne suis même pas Arthur S. Herbert. Enfin, de toute façon, James Alcock, c'est un psychologue, donc c'est comme si moi, je commençais à m'amuser à mettre des arguments de physique dans mes articles.
En fait, il avait une caution quand même, c'est qu'il avait dit ça a été relu par des physiciens et tout ça, mais donc je comprends pas comment ces physiciens ont laissé passer ça.
Ouais.
Ou alors,
j'ai juste de googler son nom, c'est un psychologue cognitiviste, donc c'est quand même deux psychologues, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est assez marrant. Ouais, non, c'est intéressant, mais donc c'est vrai que ça illustre bien le problème de. Parce qu'ici, évidemment, enfin, tu critiques des sceptiques qui utilisent des arguments de physique, mais c'est vrai que c'est assez. Voilà, c'est un peu le problème général des arguments de physique en parapsychologie. Moi, l'impression que j'ai, même étant justement pas compétent dans ce domaine-là, quand je lis les arguments de physique, ben, souvent, c'est qu'il y a la communauté parapsychologique, elle est très, très petite, très réduite. C'est toujours les mêmes chercheurs qu'on trouve dedans. Et bon, c'est vrai que dans le tas, il y a quelques physiciens, mais je ne sais même pas combien il y en aurait, mais à vue de nez, dans la Parapsychological Association, ils sont peut-être 3-4. Et il suffit que ces 3-4-là aient des idées très particulières et très non orthodoxes pour que voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent si c'est très compatible. Enfin, ils tiennent le discours inverse, mais si. S'ils tiennent des discours qui ne sont pas très classiques en physique, non spécialistes de ces sujets-là, on n'a aucun moyen de savoir si ce qu'ils nous disent est vrai ou pas. Donc, j'ai toujours très dubitatif par rapport aux articles de physique sur la parapsychologie à cause de ça.
Ouais, c'est ça. Mais de manière générale, il faut être dubitatif aussi, en particulier parce que les choses qui sont mentionnées dans la parapsychologie, c'est souvent des trucs controversés. Souvent, il y a l'intrication qui revient, et l'intrication, même en physique, même parmi les physiciens, c'est assez difficile à comprendre, quoi. C'est vraiment, justement, c'est le retour d'une action à distance qu'on ne comprend pas comment elle marche. Et alors, il y a différentes interprétations, hein. Il y en a certaines où on comprend comment elles marchent, mais c'est au prix d'abandonner d'autres choses, et notamment... Donc, parmi les interprétations de la mécanique quantique, il y en a certaines qui vont l'accepter totalement et qui vont l'intégrer dans leur interprétation. Et il y en a d'autres qui vont juste pas vraiment résoudre cette question-là et la laisser telle qu'elle en disant il y a une non-localité, ce qui est en fait la même chose que d'avouer qu'on ne sait pas comment ça marche, quoi. C'est une non-localité, c'est une action de nouveau non physique parce qu'elle est non spatio-temporelle. Si on réduit la physique au spatio-temporel. Ou alors on peut dire la physique doit s'étendre à ce type d'action aussi, c'est aussi une interprétation. Mais en tout cas, c'est hyper controversé, tout ce qu'il y a autour de l'intrication, c'est hyper dur à comprendre, et donc je pense pas que ce soit une bonne idée de miser quoi que ce soit, de fonder quoi que ce soit sur ça. Je pense que si on veut analyser ce qui est possible ou pas possible par rapport à la précognition, donc... C'est typiquement dans ce genre de contexte qu'on utilise l'intrication. Par rapport à la précognition, quand on suppose qu'il y a moyen qu'il y ait des choses qui reviennent du futur vers le passé, plutôt que de se concentrer sur l'intrication où l'aspect temporel est très bizarre et très difficile à appréhender, tout ça, je suis d'accord, mais il y a d'autres moyens d'interpréter ça que le fait qu'il y ait un retour dans le temps. Donc avant d'accepter qu'il y ait un retour dans le temps, on a quand même vachement de marge. Plutôt que de partir sur l'intrication, pourquoi ne pas débattre sur la question de est-ce qu'un retour dans le temps est logiquement possible ou pas, déjà en soi, et ça c'est vraiment traitable en dehors de la physique, en tout cas par n'importe quelle personne rationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire un retour dans le temps? Ça veut dire qu'on a des durées négatives. C'est quoi une durée négative? Ça veut dire qu'on a un anti-mouvement, parce que tout mouvement, il fait avancer le temps, il avance dans le temps, donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui doivent être traitées, mais qui peuvent être traitées de manière logique. Il n'y a pas besoin d'évoquer l'intrication, qui est un machin hyper compliqué à gérer pour n'importe qui.
Ouais, non, t'as raison. C'est vrai que l'intrication, je la vois partout dans tous les bouquins d'introduction à la parapsychologie. Ici, je ne parle pas... Je ne parle pas des mauvais auteurs, hein. On n'est pas en train de parler des parapsychologues, de la foire de parapsychologie et d'ésotérisme du quartier. Hein. Je veux dire les auteurs que je trouve relativement sérieux, qui sont membres de la Parapsychological Association, etc. C'est vrai que dès qu'ils font un livre d'introduction à la parapsychologie, ils vont mentionner ça. Et c'est vrai que de l'extérieur, on n'a aucune idée de comment... se positionner par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser des arguments plus logiques aussi. Je veux dire, moi, ce que j'aime bien comme argument, c'est souvent dire si la psychokinèse existait, est-ce que le grand collisionneur de hadron pourrait fonctionner, quoi. Je veux dire, si tous les physiciens du monde pouvaient manipuler leurs données en se concentrant très fort sur leurs données, ça aurait un impact tel, à mon avis, que les physiciens devraient être conscients, hein, auraient dû mesurer ce genre de force depuis longtemps. Enfin, tu vois, ce genre d'argument-là, quoi. Mais c'est plus des arguments. Ouais, ou bien un argument du même style, ça va être à Las Vegas, ils font des études statistiques très précises pour être sûr que les lois du hasard soient, enfin que la maison gagne toujours avec les roulettes russes, etc. Donc si des gens arrivaient à manipuler les machines à sous, etc., les casinos auraient remarqué ce genre de phénomène depuis longtemps. Enfin, j'utilise plutôt ce genre d'argument.
Comment ça se fait que c'est restreint? Comment ça se fait que ce serait restreint à un certain contexte très précis et pas... Mais ça, c'est aussi c'est intéressant comme argument, mais c'est de nouveau un argument logique. Enfin, oui, non. Les arguments logiques sont bons à prendre, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est restreint effectivement à certains phénomènes pour une raison qu'on ne connaît pas encore. Mais avant de pouvoir accepter ça, il faut alors trouver la raison pour pouvoir expliquer pourquoi c'est restreint, quoi.
Oui, c'est pas des arguments qui excluent totalement la possibilité du psy, et ça c'est sûr, pas du tout. Je pense pas qu'on ait d'arguments massus comme ça qui puissent dire. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même regarder les données empiriques qu'on a et voir si ces données empiriques tiennent la route. Mais je pense pas qu'on puisse juste purement comme ça a priori exclure par des arguments. Mais disons que c'est juste peu plausible à cause de ces arguments-là, par exemple.
Très bien. Puis même si les données empiriques tiennent la route, ça ne veut pas forcément dire que ça justifie leur sous-théorie, quoi. Enfin, leur supposition que c'est l'esprit qui fait ça. Ça peut être aussi qu'on découvre un super nouveau effet physique qu'on n'avait jamais vu. Enfin, ça peut être ça aussi. C'est juste... il faut d'abord que les vérifier si ça tient la route, quoi. Mais si ça tient la route, après, c'est formidable. C'est une ouverture vers de nouvelles choses et tout ça, quoi.
Oui, en parlant de ça, donc Renaud Evrard, qui est un parapsychologue français, qui est prof de psychologie dans le reste de la France, j'ai oublié maintenant le nom de la ville, c'est pas grave, mais qui est le président actuel de la Parapsychological Association, il a réagi à notre traduction et à notre commentaire, oui, donc au commentaire qu'on a écrit, hein, qui rejoint un peu ce qu'on a dit maintenant. Et donc il mentionne effectivement dans son commentaire, donc dans la revue Mindfield, qui est la revue, c'est pas leur revue scientifique, c'est leur magazine, si on veut, qu'ils ont en plus de leur revue scientifique. Donc la revue scientifique, c'est le Journal of Parapsychology, un truc comme ça. Mais la revue Mindfield, donc ils ont fait justement deux numéros récemment avec des modèles. Et donc ils ont des modèles psychologiques, hein, et des modèles physiques pour tenter d'expliquer le psy. Bon, voilà. Alors, il mentionnait ça en réaction au fait qu'on avait l'air de dire, je ne pense pas que c'était l'intention, c'était plus mon passage d'ailleurs, que je disais que les parapsychologues étaient plus des empiristes, puisque pour eux, ils disent il faut tenir compte des données empiriques qu'on récolte. Et je disais, de ce côté-là, les sceptiques comme Alcock réagissent plus comme des rationalistes en disant on peut rejeter a priori l'existence du psy. Bon, il disait, oui, mais les... Enfin, c'était pas mon intention de dire ça, mais lui, il avait eu l'impression qu'on voulait dire qu'on savait pas qu'il y avait des modèles, enfin, des tentatives de créer des modèles. La raison pour laquelle je pense qu'il a réagi comme ça, c'est parce que c'est vrai que c'est un argument que les sceptiques sortent souvent. Les sceptiques attaquent généralement les deux fronts en même temps, et c'est vrai que c'est pas très équitable, en disant les données empiriques ne prouvent pas l'existence du psy, et puis si on leur dit mais si, il y a des données empiriques qui prouvent l'existence du psy, ils disent mais non, mais il y a pas de modèle qui pourrait expliquer ces données empiriques, et alors c'est un peu de cercle. Alors ça énerve les parapsychologues, parce que quoi qu'ils disent, ils sont foutus, quoi.
Et on commence par l'autre côté, ils disent c'est basé sur rien. Ah non, ouais.
Du coup, ouais, Il voulait nous rappeler qu'il y avait des modèles, mais évidemment, je suis au courant qu'il y a des modèles, c'était pas l'intention que j'avais, mais bon, je pense que les modèles, mon opinion, c'est que les modèles, évidemment, sont, bien entendu, il y a des gens qui essayent de faire des modèles, et c'est très bien, je pense que c'est très bien qu'ils essayent de faire des modèles. Après, c'est pas des modèles validés et acceptés par l'ensemble de la communauté des physiciens, donc il faudrait qu'il y ait un modèle qui arrive à percer, et que l'ensemble des physiciens y jettent un œil et se disent, ouais, ça tient la route, mais pour l'instant, on n'en est pas là,
Et ouais, justement, les modèles qu'ils citent, c'est pas trop ça, quoi. Enfin, moi, j'en connais un sur les trois là, c'est la Generalized Quantum Theory. Et ça, je souris parce que je trouve que cette appellation est vraiment abusive et crée de la confusion sur l'importance de ce modèle-là, qui est en fait un modèle alternatif à la mécanique quantique en tant que théorie. Donc, où ils redéfinissent un peu tout. Donc c'est déjà, je place le contexte, cette théorie-là, c'est trois articles en tout et pour tout. Il y a un premier article qui s'appelle, en plus elle ne s'appelle même pas Generalized à ce moment-là, elle s'appelle Weak, donc faible, théorie quantique faible. Et ça a été publié dans une vraie revue, ça a été publié dans Foundations of Physics, qui est une bonne revue de philosophie de la physique. Et après, il y a deux autres articles. Le deuxième, il est publié dans une revue pas de physique. Et le dernier, il n'est même pas publié dans une revue. Et chaque fois, ils essayent d'approfondir le truc, mais c'est toujours hyper incomplet. Et chaque fois, ils avouent eux-mêmes dans l'article que c'est juste le tout début du modèle, que ce n'est pas du tout complet et qu'ils n'ont pas la prétention de reproduire tout ce que la mécanique quantique couvre. Et dedans, on voit bien, ils refont complètement tout. Il n'y a pas de probabilité, il n'y a pas... Enfin, toute la... ils ont complètement réinventé les notions d'indétermination, principe d'indétermination. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a des quantités qui ne peuvent pas être mesurées en même temps avec précision. Et eux, ils disent, ouais, nous, en fait, on ne va pas prendre qu'elles ne peuvent pas être mesurées en même temps avec précision, on va dire qu'elles ne peuvent pas être mesurées en même temps tout court, que, en fait, dès qu'il y en a une qui est mesurée, l'autre n'existe pas. Et ça, c'est, je veux dire, le principe d'indétermination d'Heisenberg, il est démontré mathématiquement et il est étudié. Il y a des mesures. je veux dire, le fait de poser ça comme ça, c'est vraiment une spéculation en fait. Et donc tout ce modèle est très très spéculatif. Et lui-même, et c'est avoué dedans que c'est pas complet. Et il y a quand même énormément de choses. Et aucun physicien n'a entendu parler de ce truc. Hein. Jamais on en parle ni dans le milieu de la physique, ni même dans le milieu de l'interprétation de la mécanique quantique. Donc, et pourtant, il y a beaucoup d'interprétations, donc souvent, il y a des panels d'interprétations qui sont cités, elle n'est jamais citée dedans, c'est inconnu au bataillon. Et les seuls endroits où j'en ai vu parler, c'est dans des articles de parapsie. C'est les seuls articles où ils en parlent. Donc c'est quand même vraiment louche. Et en plus, ils disent au début de leur article, du dernier article là, qui est le plus précis, qui date de 2012, où ils disent c'est en projet, mais il n'y a rien depuis 2012. Enfin bon. Donc dans cet article-là, ils disent que l'intention dans le fait de créer cette théorie, c'était de pouvoir l'étendre à des choses, de pouvoir étendre la mécanique quantique à d'autres domaines que la physique. Donc c'est aussi un peu... S'ils sont partis de cette intention-là, évidemment qu'ils allaient arriver à cette conclusion-là, quoi.
Ouais, non, c'est super intéressant. Mais je suis pas étonné. C'est l'idée. Encore une fois, c'est ce que je disais. Hein, pour moi, le problème de la communauté parapsychologique, c'est pas qu'ils essayent pas de faire de la faire science. Je pense qu'ils sont pleins de bonne volonté. Ils sont pleins de. Ils essayent vraiment, vraiment. Sérieusement, mais moi je dis toujours, mon principal diagnostic, c'est le manque, la petitesse de la communauté, entre autres pour des raisons sociologiques évidemment, parce qu'un chercheur qui s'implique en parapsychologie, c'est mal vu, etc. Et du coup, il suffit qu'il y ait un physicien qui a un petit dada sur un truc et qui très spéculatif et il va la pousser à mort. Et alors tous les autres comme moi qui sont dans le truc, on ne sait pas du tout évaluer ce que ça vaut. Et du coup, ça va devenir populaire dans la communauté parapsychologique, alors qu'en réalité, c'est pas du tout, c'est très, comme tu dis, inconnu au bataillon. Enfin, j'imagine vraiment bien ce genre de processus en toute bonne foi finalement. Mais dans le domaine de l'ufologie, il y avait le même truc, mais ça, c'est très flagrant avec Jean-Pierre Petit et la magnéto-hydrodynamique pour la propulsion des ovnis, où il a poussé ça pendant des décennies maintenant, alors que bon... et alors tous les ufologues...
Depuis, c'est un physicien ?
Oui, Petit, c'est un physicien, oui.
Ok.
Ouais. Jean-Pierre Petit, oui.
Je ne connais pas bien.
Ouais, enfin bon, si tu t'intéresses au paranormal, il est partout, il est sur tous les coups, il est théorie de la
Oui, je l'ai déjà
conspiration.
vu, mais je ne connais pas vraiment ses antécédents, jamais lu les trucs et les
Il
trucs.
est. Il a. Ouais, il était connu au départ parce qu'il a fait des BD de vulgarisation qui étaient de la nature hydrodynamique et d'autres sujets. Du coup, ça a très fort plu à la communauté des physiciens qui trouvaient les BD bien faites. Et puis, ça lui a donné un peu de crédit dans la communauté. Je pense qu'au tout départ, il était légitime. Hein, mais bon, c'était il y a 30 ans hein, avant qu'il a fait quelques trucs bien. Et puis après, il s'est investi dans la propulsion des ovnis, etc. Et alors, il a développé le syndrome de Galilée à 200% en disant, mais on n'écoute pas ce que je dis, etc. Et alors, il a fait enfin, bon, je sais pas du tout ma spécialité, donc je n'utilise pas les bons termes, mais une théorie cosmologique aussi. Mais c'était très marrant parce qu'il avait une préface d'un autre physicien sur sa théorie qui disait que, oui, sa théorie est pas mal, mais. Dans la préface, il met sa théorie pas mal, mais par contre, quand il parle des extraterrestres, je me demande s'il n'est pas un peu schizophrène. Je me dis, si le mec met ça dans ta préface, c'est
Il a mis ça.
que quasiment dans la préface, c'était phénoménal. Je dis,
Faut croire
ok.
qu'il a vraiment besoin d'avoir une préface d'un physicien parce
Ouais, c'est ça, quoi. Mais bref. Mais bon,
que.
maintenant, Jean-Pierre Petit, c'est la caution de beaucoup de. Ouais, il y a deux, trois physiciens qui sont en ufologie, Mason, évidemment. Mais lui, il est très, très âgé. Bref, maintenant, Petit, il a 70 ans. Mais donc, on voit bien qu'en gros, on prend deux, trois individus qui sont très à la marge, mais qui ont les diplômes ad hoc. Et voilà, mais de très hydrodynamique, évidemment, surtout à son époque, c'était, je pense, quelque chose de tout à fait sérieux. Mais. Lui, il pousse ça alors que de manière excessive. Enfin, c'est son dada, alors qu'il essaye de la mettre dans la propulsion des ovnis à tout prix, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai déjà vu ça souvent hein, dans plein d'autres domaines, des physiciens comme ça qui défendent un truc. Mais c'est aussi que il faut qu'on continue à se rappeler que c'est pas le spécialiste qui fait la science, c'est le consensus qui fait la science. Et évidemment qu'il y a toujours deux, trois physiciens pour défendre à peu près n'importe quoi, mais c'est pas parce qu'ils sont physiciens et qu'ils défendent quelque chose que la physique défend ça, quoi.
Ouais, ça, c'est un point crucial, vraiment important à rappeler, je pense. Et le problème, évidemment, c'est que pour les gens qui sont pas des spécialistes et qui lisent au mieux la littérature de vulgarisation, et encore moi, honnêtement, je fais une confiance très limitée à la littérature de vulgarisation. Je peux même pas dire que j'essaie de lire de la littérature de vulgarisation sur la physique quantique parce que j'ai aucune confiance dans ce que je lis. Donc.
Ouais, non, t'as bien raison. Ouais, c'est généralement assez mal expliqué. Ou alors, carrément fou, quoi. Mais sinon, il y a, si jamais, il y a Science Étonnante qui fait des bons trucs sur la mécanique quantique, j'ai trouvé que jusqu'ici, ce que j'ai vu en vulgarisation, c'était lui qui expliquait de la manière la plus correcte, au sens où chacune des phrases qu'il va dire est vraie. Il va jamais. Rentrer dans la mauvaise vulgarisation qui est de en venir à dire quelque chose de faux parce qu'on l'a trop simplifié ou quoi. Et lui, il arrive vraiment à simplifier les choses sans dire des choses fausses, quoi. Donc c'est quand même
C'est une chaîne
vachement
YouTube, ça,
intéressant.
Science Étonnante?
Oui, donc Science
Ok.
Étonnante, c'est une chaîne. Il a aussi un blog, hein. Le blog est plus complet où il fait des articles en expliquant de manière plus complète. Et aussi, ouais, enfin, il fait plein de choses. Il fait pas que de la physique, il y a aussi un peu des maths, il y a un peu de tout, en fait.
Non, c'est cool. Bon,
Enfin, un peu tout, c'est plus que maths et physique.
on a une recommandation pour les auditeurs qui veulent aller plus loin. Alors, c'est
Alors par contre, pour l'intrication,
le retour de
pour
l'intrication.
l'intrication, c'est très bien expliqué, mais les conclusions sont un peu rapides, quoi. Donc, ouais. Je précise juste pour s'il y a des gens qui me prennent au mot et qui vont regarder cette vidéo.
Très bien, très bien.
Donc, justement, n'oubliez pas que l'intrication, c'est beaucoup plus compliqué que. Enfin, ouais, c'est tellement compliqué que pour l'expliquer, il faut vraiment quelqu'un qui a travaillé dessus pendant 20 ans sur justement juste ce sujet-là, quoi.
Ok, très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, et puis oui, enfin donc la conclusion que moi je mettais, mais oui, c'est enfin de toute façon c'est comme je le disais, moi c'est mon mon Moi, le problème principal, mon diagnostic principal de la communauté parapsychologique, c'est justement le plus de le manque de membres et donc enfin de gens qui s'impliquent dedans. Et donc, s'il y a des gens voilà dans les auditeurs qui ont des compétences en physique, etc. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à aller intervenir et à critiquer les choses qu'ils voient fausses, etc.
Non,
Encore une
pour
fois,
ça.
je pense pas que ça vienne d'une mauvaise intention. Enfin, mon impression subjective, c'est que les parapsychologues, ils font de leur mieux, mais simplement voilà. S'il y a trois physiciens dans le groupe, ils ne peuvent pas forcément. Voilà, et que ceux-là disent des choses qui sont critiquables, bah, il ne faut pas hésiter à les critiquer et à publier là-dessus, idéalement.
Moi, je sais pas dans quelle mesure c'est faire de son mieux de. Je sais pas dans quelle mesure c'est son mieux. Je sais dans quelle mesure on peut dire qu'ils font de leur mieux parce que. Justement, en tant que scientifique, c'est aussi quelque chose de. Quand il y a quelque chose où. Quand il y a un sujet où on voit qu'on n'en a absolument aucune appréhension, le fait de l'utiliser, c'est prendre un risque, quoi. Parce que ça veut dire qu'on. On fait reposer la confiance sur ce que quelqu'un d'autre pourra nous en dire. Et le fait d'utiliser typiquement l'intrication. Je pense que ça, c'est pas de l'honnêteté intellectuelle, parce que l'honnêteté intellectuelle serait dire, ok, moi, j'y comprends rien à l'intrication, donc je vais m'en tenir à ce qui est à ma portée. Et le fait de rapporter des propos de quelqu'un d'autre ou de s'essayer à des explications selon ce qu'un physicien nous expliquait, je crois pas que ce soit à faire de son mieux, quoi.
Non, tu as raison, c'est vrai que c'est bien de le dire, et je crois que c'est bien d'avoir ouais, de l'humilité épistémique, comme on dit, hein, c'est super important. Voilà, bah, quand Alcock et l'autre utilisent des arguments, ça, et enfin, utilisent des mauvais arguments de physique, ils ont tort de le faire. Et voilà, c'est pour ça, moi j'essaie de faire de mon mieux quand j'écris sur le paranormal, de pas me lancer dans ce genre d'arguments du tout. Enfin, à ma connaissance, je le fais pas. En tout cas, si je le fais, c'est vraiment à l'insu de mon plein gré. Mais c'est aussi un beau message à dire
Ouais,
aux
ça,
sceptiques.
on n'est pas
Il
parfait
faut
non plus.
dire aux sceptiques quoi, et de l'humilité épistémique. Si vous voulez critiquer la parapsychologie, ne vous lancez pas avec ce genre d'arguments-là, quoi. Utilisez des arguments. Ben voilà, si vous êtes psychologue, utilisez des arguments méthodologiques que vous maîtrisez. Si. Voilà, il y a plein d'expériences de parapsychologie bon, qui sont faites avec des méthodologies de psychologie. Alors évidemment, là, si vous êtes pertinent, compétent en méthodologie de la psychologie, forcément, vous pouvez en parler. Mais... Cool. Prochaine fois.
Après, pour aller plus loin, pour vraiment pouvoir, enfin, je vais faire ma petite pub, mais si vous avez envie de comprendre vraiment l'intrication, parce que vous avez envie de la comprendre, pas pour juste pas de la vulgarisation pour en avoir une vraie idée, mais il y a un cours qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Université populaire de Marseille, de 6 séances. Sur la mécanique quantique. Et c'est donc une introduction conceptuelle uniquement à la mécanique quantique, donc sans aucune maths. Le but, c'est de fournir une connaissance de niveau universitaire, mais accessible à n'importe qui. Et donc, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un exercice d'explication comme ça. Donc, je pense que j'ai pas été forcément. La plus claire possible sur certaines choses, c'est pas parfait, mais au moins il y a des références où vous pourrez aller voir des bouquins, des trucs comme ça. Et donc il y a vraiment moyen de rentrer dedans si on sait par où rentrer, quoi. Si jamais ça intéresse des gens.
Oh, c'est génial,
Donc.
il faut donner des bonnes références. Hein. Et en plus, tu auras ta conférence à venir sur les mauvais usages de la physique quantique à Skepticopub, virtualisée sur Discord. Et de toute façon, si jamais elle serait dans le passé au moment où vous écoutez cet épisode, on la mettra de toute façon sur le podcast Scepticisme Scientifique, au minimum l'audio. Normalement, s'il n'y a pas de problème technique, on la diffusera, elle sera réécoutable a posteriori. Génial. Ben voilà, on a super. Et comme ça, au moins, les auditeurs ont fait ta connaissance. C'est cette année hein, que tu as rejoint le comité para ou avant, je ne sais plus.
Ça fait un an, je pense,
Ouais,
oui.
ça fait juste un
Bah oui, parce que
an.
je devais attendre un an avant d'être membre du CA, donc ouais,
Voilà,
un an.
ouais, c'est génial, c'est génial. Ouais, on est content, comité para, Jérémy et moi, tout d'un coup, enfin, tout d'un coup. Maintenant, il y a pas mal de membres qui sont actifs et qui ont envie de faire des choses, donc ça c'est gai. On va
Ouais,
pouvoir
c'est
un peu
chouette.
liser notre blog, justement. On a des traductions d'articles, tout ça. Voilà, il y a des choses qui se font, ça bouge, quoi.
Ouais,
Super.
c'est un chouette groupe. Enfin, en plus, il y a tout le temps des nouveaux gens.
Ouais. Très bien. Eh ben, on va prendre congé des auditeurs. À la prochaine fois, Alice.
Ouais, à la prochaine fois. Merci pour cette interview. C'était très chouette.
Ciao, ciao. Bye, bye.